60 000 enfants. Ce sont 22 000 enfants qui sont aidés à travers des parrainages scolaires directs et 38 000 enfants aidés à travers, qui sont accueillis dans des centres d'accueil là-bas sur place. Alors ça peut être des centres pour sidéens, ça peut être des orphelinats, des centres d'accueil pour les enfants abandonnés des rues de Manille ou de Bangkok. Et nous envoyons chaque année 60 volontaires qui partent avec le statut de volontaire de solidarité internationale. Alors, l'association propose deux types de parrainage. Un parrainage individuel, avec un échange épistolaire entre le parrain et son filleul, et un deuxième type de parrainage qui est le parrainage collectif. Le parrainage collectif s'adresse au centre d'accueil de là-bas, qui ça permet de faire vivre le centre, donc d'aider ses enfants au plus près de leurs besoins de tous les jours. Alors, l'association fête cette année ses 60 ans, donc nous reparlerons de cette fête qui sera organisée donc dans le courant de l'année.
Merci, en tout cas c'est une vaste action que vous faites avec énormément d'enfants. Je retrouve un petit peu effectivement les structures prioritaires dans ces pays-là, à savoir les parrainages, les systèmes de parrainage, hein, individuels et collectifs, où vraiment ça permet aussi de d'aider au plus ample,
et en plus grand nombre,
d'enfants. D'enfants, voilà, et puis ça permet aussi de répondre aussi à des souhaits de parrains, quoi.
Bien sûr.
Soit qui préfèrent, voilà, chacun a ses préférences. Donc je vois que vous avez vraiment un large champ d'action, et bon, pour une région du monde aussi, donc qui est absolument démunie, hein, comme beaucoup de régions de notre monde, malheureusement, qui est tellement inégale. Donc voilà, vous allez continuer à développer, mais j'avais entendu tout à l'heure, j'en ai parlé, vous avez donc sur place, et vous l'avez dit, des volontaires, ça c'est très intéressant. C'est intéressant à double titre, parce que d'abord c'est de l'énergie qui est apportée là-bas, de notre part, et c'est pas que de l'argent, mais c'est aussi vraiment une énergie vivante, hein. Et en même temps, ça permet, je pense, de sensibiliser des jeunes, notamment, à toutes ces problématiques du monde. Moi, je trouve ça formidable. Voilà. Et donc, je sais pas si vous avez autre chose à dire par rapport à ça.
Alors, Marie-Sylvie va vous parler des volontaires,
d'accord.
Les différentes missions.
Donc, nos volontaires, on les appelle des bambous parce que, bon, ils plient, ils ne rompent pas. Et c'est des jeunes qui partent pour 13 mois. Donc, ils ont le statut de volontaire de solidarité internationale. C'est-à-dire que l'association donc, s'occupe de toute la logistique pour les envoyer là-bas, qui payent leurs frais, leurs frais de...
Toutes
les charges sociales aussi, quand ils reviennent, ils touchent le chômage comme s'ils avaient travaillé, etc. Voilà.
D'accord.
Et donc, pour nous, c'est vraiment le lien entre le siège d'Asnières et ce qui se passe là-bas.
Voilà. D'accord.
Bon, concernant les parrainages, je voudrais dire qu'on n'a pas 4 parrainages, mais on en a 5. Parce qu'à l'anniversaire de notre petite fille, pendant qu'on enveloppait les lettres pour l'invitation pour le repas, elle voit arriver 4 enveloppes avec le même nom. Elle me dit, mamie, pourquoi il y a 4 enveloppes au même nom? Je lui dis, c'est un parrain qui a offert un parrainage à ses 4 enfants. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, elle me dit, c'est formidable. La semaine d'après, on fêtait son anniversaire et on lui a offert un parrainage. Et je ne vous dis pas la joie de cet enfant de 10 ans, qui est fille unique, de pouvoir correspondre avec une petite là-bas. Une petite
Les enfants sont très, très ouverts à ce genre de solidarité. Oui. D'accord.
Alors, tu nous parles des 3 types de missions bambou.
Ah oui, donc les 3 types de missions bambou. Donc, les missions bambou, le premier type, bien sûr, c'est coordinateur de parrainage, c'est-à-dire aller visiter les familles, voir si l'enfant va bien à l'école, donner l'argent aux familles. Dans l'argent qu'on donne, il y a une partie toujours donnée sous forme de riz pour que le reste de la famille en profite. On a même eu un cas, par exemple, d'une filleule qu'on est allé voir où il y avait la jumelle. Donc, on ne veut pas qu'il y ait de différence entre tous les enfants. Donc, ça, c'est la première mission. La deuxième mission, c'est d'animer des centres. Donc, les centres qu'on soutient. On a eu une volontaire de Montpellier qui a été la première année coordinatrice et parrainage en Thaïlande et la deuxième année qui est partie comme animatrice d'un centre étudiant sur l'île de Dumaguete, aux Philippines. Et la troisième type de mission, donc c'est les programmes de développement qu'on réalise sur place, donc sur la demande de la population, voir si ces programmes sont réalisables. On les soumet à Asnières. Une fois qu'ils sont acceptés, donc on les développe. Nous, on par nos actions sur place, ça permet de financer ces programmes. Et après, donc, ils les réalisent et ils vérifient bien que la réalisation est en accord avec ce qui a été demandé.
Donc, le lien avec les volontaires est essentiel pour...
Voilà,
pour,
c'est vraiment la charnière. Bien, voilà.
Donc, peut-être l'équipe de Bangkok,
Alors, l'équipe de Bangkok, nous l'avons rencontrée en arrivant donc là-bas. Louis, qui est le responsable Asie pour les missions essentielles, dont la mission essentielle, c'est d'assurer l'organisation, la logistique et la sécurité des 60 bambous qui sont en mission là-bas. Donc, il gère l'ensemble des flux financiers pour les 22 000 parrainages. Il supervise les programmes de développement sur les 7 pays d'intervention. Et il est assisté dans ses missions par Tanguy. La deuxième personne, ou du moins, ça fait la troisième, puisqu'il y avait Tanguy. Armelle est animatrice en charge des outils de formation humaine au travers de la charte pédagogique qui a été mise au point par Enfants du Mékong. Et elle met en et cette charte pédagogique, elle est mise en œuvre dans nos centres. Alors cette charte présente trois piliers. Le premier pilier, c'est le développement personnel. Le second pilier, c'est l'environnement autour de soi. Et le troisième pilier, c'est l'engagement personnel au service de la collectivité. Donc cette charte est développée dans tous nos centres d'Asie parce qu'on n'aide pas uniquement les enfants à une formation scolaire, mais on les aide à grandir et c'est pour ça qu'on dispense des cours de formation humaine, en particulier dans les centres des grandes villes où nous avons des étudiants qui sont hébergés dans nos centres. Armelle est aidée dans sa mission par deux bénévoles locales. Ce sont en général des expatriés qui sont sur Bangkok pendant un certain temps. La troisième personne, ou du moins la quatrième, c'est Montita, qui est responsable du comité de traduction, qui est une véritable plateforme des échanges épistolaires entre les filleuls et leurs parrains pour la Thaïlande et la Birmanie. Donc, elle s'occupe de la réception des courriers par les bambous qui les apportent donc à Bangkok, de leur enregistrement de ces courriers. Elle les envoie dans les centres de traduction et quand ça revient des centres de traduction, elle les envoie aux parrains pour que les parrains reçoivent enfin la lettre qui vient de leur filleule. Et en sens inverse, le cheminement est exactement le même. Quand les parrains écrivent, c'est Montita qui reçoit donc ces courriers et qui fait le cheminement inverse pour que les bambous les reçoivent après le passage dans le centre de traduction.
C'est toute une organisation, hein?
Ah oui, c'est une organisation. Oui. Loïc, donc le responsable en titre, est le seul qui soit reconnu comme travaillant sur l'Asie. C'est le seul qui a le statut d'employé d'enfant du Mékong.
D'accord.
Les autres, ce sont des bénévoles.
Des bénévoles.
Avec plusieurs.
C'est un salarié. D'accord.
Ils font plusieurs années. Alors, un dernier mot sur la délégation de Bangkok. Elle organise des manifestations pour faire connaître Enfants du Mékong et récolter des fonds pour nos projets de développement. Et elle organise en particulier le marathon de Bangkok chaque année.
D'accord.
Voilà pour la présentation de notre équipe de Bangkok.
Alors, je pense que le temps passe et on pourrait peut-être faire la première pause musicale que vous avez choisie. Hein, c'est une musique évidemment locale pour nous mettre dans cette ambiance-là. Et donc, on va écouter la première pause musicale. Voilà, nous reprenons le cours de notre émission. Je vous rappelle que j'ai le plaisir de recevoir Marie-Sylvie et Jean-François Charles d'Enfants du Mékong, qui viennent de nous expliquer le fonctionnement globalement de l'association qui s'occupe de nombreux pays là-bas, en Asie. Et ils rentrent d'un voyage de Thaïlande et ils nous ont bien expliqué avec leur fonctionnement. Et donc, je vais leur demander de me parler des volontaires, puisqu'ils vous ont expliqué tout à l'heure que ce sont des volontaires, des bénévoles à l'international. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu le temps que vous avez pu passer, puisque c'est très vivant ce que vous nous dites. Donc, qu'est-ce que vous avez vécu, par exemple, Marie-Sylvie?
Voilà, donc, nous, la première mission que nous avons rencontrée, c'est celle de Camille. Nous y avons passé 5 jours, et dans la région de Lissane, la région la plus pauvre, où elle gère 11 programmes qui représentent globalement 400 filleuls. Donc, le premier centre qu'on a visité, c'est celui de Nong Khai, qui est géré par Sister Soutisa, qui était des 2 travailleuses sociales, de 2 stagiaires. Et elle a créé, elle a un dynamisme incroyable parce qu'elle a plus que notre âge, hein, c'est-à-dire plus de 70 ans. Elle a créé un atelier de couture pour les mamans, un showroom pour tout ce qu'elles font, un restaurant, un centre de culture de champignons. Elle aide 2 centres de CDA. Enfin bon, elle a une énergie incroyable. Donc, c'est là qu'on a visité effectivement plusieurs filleules de la région, en particulier une filleule qui a 14 ans par là. Donc, effectivement, à chaque fois que Camille rencontre une filleule, elle fait un bilan. Est-ce qu'elle reçoit bien ses lettres? Qu'est-ce qu'elle aime faire? Alors là, quand ce qu'elle aime faire, la pauvre petite, elle ne savait pas trop quoi dire parce qu'ils n'ont pas d'activité comme nos
tout
enfants.
À fait.
En fait, on s'est rendu compte que cette jeune fille aidée, parce qu'elle n'a plus ses parents, elle vit chez sa tante, aidée parce que cette tante a 2 jeunes enfants, donc elle est un petit peu l'aide ménagère. Hein. Donc là, nous, on essaye justement de voir ce qu'il faut faire. Le deuxième centre qu'on a visité, c'est celui d'Udon Thani, où là encore, on a une autre filleule qu'on a visitée. Et là, on s'est rendu compte que les jeunes avaient une tenue particulière ce jour-là, parce qu'en fait, ils ont chaque semaine un jour réservé pour le centre de formation civique.
D'accord.
Voilà. Donc, on a rencontré...
Et puis, pour les gens que ça intéresse, quand même, vous expliquerez qu'à la fin de l'émission, qu'on peut aussi aller non seulement déguster, mais aussi vous écouter le 7 octobre, c'est ça?
Ah oui, raconter.
Et discuter avec vous aussi à bâton rompu.
Oui. Voilà.
Alors, on passe à Jean-François.
Et ce jour-là, vous aurez l'intégralité de notre voyage avec toutes les,
ça
toutes
va être
les belles rencontres que nous avons
tout
réalisées. Alors, nous sommes passés après à Chiang Mai et nous avons passé 3 jours avec Marthe. Marthe est coordinatrice de parrainage. Elle s'occupe de 14 programmes de parrainage et d'un groupe important d'étudiants, ce qui représente en gros 380 filleuls. Elle est basée dans une ville universitaire, donc à Chiang Mai, je le disais tout à l'heure. Pour rencontrer la plupart des étudiants, les réunions sont organisées trimestriellement parce que tous n'habitent pas à Chiang Mai, donc elle profite de leur présence à Chiang Mai pour faire ces réunions. Alors, les formations que les étudiants suivent sont généralement l'agriculture environnementale, la mécanique pour les garçons, l'enseignement et la comptabilité pour les filles.
D'accord.
Alors, je voulais vous parler aussi d'une rencontre qui nous a énormément émus avec Marthe. C'est un appel de détresse pour éviter la fermeture de l'école Shan de Lactine. 3 professeurs de l'ethnie Shan sont venus demander de l'aide pour pérenniser leur école menacée de disparition. Depuis la reprise des combats entre la Birmanie et l'ethnie Shan, l'association Shan qui finançait le fonctionnement de leur école, qui était située en Thaïlande, leur a dit qu'elle ne pouvait plus les financer. Or, le gouvernement thaïlandais ne finance que 2 professeurs sur les 10. Donc l'école ne peut plus fonctionner, sauf à ce que les 8 autres professeurs deviennent des bénévoles. Donc, cette école qui accueille 234 enfants dispense des cours en Shan et en Thaï, du CE1 à la 3e. Elle est condamnée si elle n'est pas aidée. Alors que de son côté, l'intégration et l'apprentissage de la langue Thaï est indispensable pour que les Shan de cette région puissent s'intégrer. Donc voilà, Marthe a l'intention de monter un programme de développement, ou plutôt un programme de parrainage collectif pour que cette école puisse continuer à survivre et à perdurer.
Donc je suppose qu'on pourra avoir des nouvelles de ce cas aussi, qui fait partie de ces nombreux cas d'Eddy complètement lésés, etc. On pourra le voir sur votre site, je suppose. Pourra suivre ça,
oui.
Hein,
d'accord. On vous donnera le site
à la fin de l'émission.
Pour vous permettre d'aller...
L'endroit où on peut se documenter. D'accord.
Voilà.
Alors maintenant, le temps presse, on ne peut pas faire tout ce qu'on voulait. Vous aviez plein de choses à nous dire. Et j'aimerais qu'on parle justement de l'organisation de ce repas que vous allez donc offrir dans un lieu prestigieux.
Voilà.
Marie-Sylvie.
Bon, moi, je vais simplement rajouter quand même qu'on a rencontré Anne, qui est une volontaire qui... a fait ses études à Polytech à Montpellier, chez les Carènes. Donc là
okay.
aussi, ça a été...
Voilà.
Très...
Mais ça, je suppose aussi, c'est pareil, ça sera visible dans ce que vous avez présenté, ou sur votre site aussi, parce que ça risque d'intéresser beaucoup de monde. Alors, ensuite...
Alors, pour le repas, donc, ça se passera au château de Plougère.
Ah oui, un très bel endroit.
Un très bel endroit, comme chaque année. Hein. C'est le 7 octobre à 11h. On présente donc cette année donc, nos témoignages, et également le témoignage... de deux marraines qui sont allées voir leur filleule, une en Birmanie et l'autre au Laos. Au Laos, chez Madame Bounmi, qui est effectivement une Laotienne qui a été 20 ans en camp de réfugiés en Thaïlande et quand elle a voulu retourner dans son pays. Et là, elle a créé une école au Laos. Donc, on parlera de cette femme qui est extraordinaire. Donc, ce repas...
Donc, on va pouvoir déguster.
Voilà, ce sera un repas donc asiatique.
Asiatique, voilà, important.
Ah, et bon, il faut pouvoir s'inscrire. Donc, le montant du repas est de 22 euros pour les adultes. Pour les enfants de moins de 12 ans, c'est 11 euros. Mais s'il y a plusieurs enfants, bien sûr, on fait attention. On ne fait pas payer tous les enfants. Hein. Voilà.
Donc, il faut dire qu'il y aura un repas. Je crois qu'il y aura des dégustations aussi de vin, non, de boissons.
Alors, c'est possible dans le cadre de la cave. Si Monsieur de Colbert est présent, nous fera visiter donc la cave. Et donc, la dégustation sera possible.
C'est un lieu qui est vraiment symboliquement très chargé d'histoire aussi, Colbert, et puis de...
Oui, parce qu'ils ont neveu qui est parti comme volontaire chez nous.
Oui, en plus, voilà.
Voilà. Puis on viendra également des soirées du Mékong, puisqu'on a créé une école de la soie au Cambodge.
D'accord.
Et de l'artisanat qu'on a ramené de notre voyage.
Alors, il faut peut-être rappeler le montant du repas.
Oui, donc je l'ai dit, le repas, c'est 22 euros.
22 euros,
pour
voilà.
Les adultes.
Des enfants, voilà ce que vous aviez dit. Donc, avec un menu asiatique et une cuvée du château, ainsi que l'apéritif et le café. Donc, on peut penser quand même que pour faire une bonne action, tout le monde peut se. Voilà. Et donc, le bénéfice du repas, ça servira.
Alors, à la construction d'un réfectoire qui se trouve en Birmanie, en fait, c'est 52 enfants qui n'ont pas de réfectoire. Donc, c'est un réfectoire, il y a juste une dalle et puis une toiture en tôle et puis trois côtés en bâche. Donc, pour accueillir le réfectoire, on va construire ce bâtiment qui servira non seulement de réfectoire, mais de salle d'études pour les enfants. Parce que il y a beaucoup de... non seulement les enfants vont à l'école, mais le soir et le matin, ils doivent donc réviser leurs cours. Et donc, tous les enfants étaient dans la même salle. Donc, on ne peut pas imaginer une salle d'études avec des enfants de CP qui apprennent à lire et des troisièmes qui révisent... pour préparer donc leurs études. Donc, ce réfectoire permettra aussi de salle d'études.
D'accord, on ne peut pas vouloir scolariser des enfants et ne pas leur donner un minimum de moyens pour être dans des pas trop mauvaises conditions.
Donc, d'accord. Vous pouvez vous inscrire pour ce repas.
Absolument.
Donc, soit par téléphone, en m'appelant directement au 06 60 12 58 02 ou en envoyant un mail pour nous demander la réservation pour ce repas, puisqu'on fait appel à un traiteur, il faut qu'on ait le nom
voilà,
de,
que vous ayez
de
une idée
présent.
Un petit peu, ouais.
Alors, l'adresse mail est la suivante, délégation 34,
tout attaché,
@ enfantsdumekong au pluriel et toutattaché.com.
Enfant du Mékong, enfant avec un S, du Mékong, tout attaché, un .com. Donc délégation 34, enfants-du-mekong.com. Voilà. Est-ce qu'il y a un site aussi où les gens peuvent consulter un petit peu, se tenir au courant de l'actualité?
Alors, le site de l'association, bien sûr.
Oui. Voilà, vous pouvez le dire peut-être, Marie-Sylvie?
Oui.
C'est www.enfantsdumekong.com.
D'accord. Bon, donc, avant d'entamer le grand calendrier de rentrée, je vous propose un autre morceau de musique, voilà, que vous avez choisi également. Et qui est
oui, qui est la musique vietnamienne.
Voilà, musique vietnamienne. Je vous retrouve avec ce bel exposé des magnifiques actions d'enfants du Mekong dans des pays, les nombreux pays concernés, avec les délégués régionaux qui sont Marie-Sylvie et Jean-François Achard. Et donc le programme alléchant de ce repas du 7 octobre à 11h, je vous rappelle, au château de Flaugergue, qui est quand même pas n'importe quoi. À Montpellier. Et il est à Montpellier, sur la commune de Montpellier en plus. Donc le calendrier des associations, donc des activités de l'association et des partenaires. Donc ce soir, à 19h45, au Diagonale, il y aura une séance en avant-première dans le cadre du Festival Arabesque qui a lieu en ce moment, et en partenariat avec le Cinémed et avec Coup de Soleil, en présence de l'acteur du film qui va être projeté, dont le titre, c'est un film franco-marocain, Tadzeka, de Jean-Philippe Gault. C'est produit par la société Les Deux Rives, qui est basée donc sur Montpellier, dans le quartier des Aubes, et qui va nous présenter cette avant-première, qui risque d'être d'ailleurs très alléchante, puisque c'est sous la forme d'un conte culinaire positif et que ça pose la problématique de l'emploi et de l'immigration en même temps. Voilà. Donc ensuite, le jeudi 20, donc, et vendredi 20, alors jeudi 20 à Clermont-Lérault et vendredi 21 à Clapiers, Coup de Soleil aussi, reçoit Karim Amellal, qui est le lauréat de 2018 du prix Coup de cœur de Coup de Soleil pour son roman Bleu, Blanc, Noir aux éditions de l'Aube. Vendredi 21 à 20h au Salon du Belvédère au Corum, il y a une conférence Palestine, un peuple, une colonisation d'Olivier Pironnet. Elle est organisée, la FPS et les Amis du Monde Diplomatique. Samedi 22 à partir de 18h30 à l'espace Georges Brassens à Saint-Gély-du-Fesque, une soirée africaine, donc Saint-Gély fête l'Afrique, organisée par les associations Maya, votre serviteur, et Avenir Togo 30-34. Il y aura en programme des contes d'Irénée Dombouë du Burkina Faso, qui est bien connu de nos équipes ici. Et il y aura ensuite un concert qui sera donné par le groupe Abda, qui est originaire de l'archipel des Comores. Une belle occasion de faire connaissance avec la musique comorienne. comorienne et la langue comorienne aussi, qui est une langue très douce. Voilà, il y aura de une exposition vente d'artisanat africain avec dégustation de mets sucrés salés et des boissons africaines. Et les bénéfices de cette soirée culturelle serviront à aider les femmes et les enfants atteints du VIH de la région de Bobo-Dioulasso au Burkina Faso et pour les enfants du Togo qui, à travers Avenir Togo, recherche des parrainages pour les enfants orphelins accueillis dans un centre d'action sociale magnifique, puisque c'est en lien avec l'action sociale du pays, à Kpalimé, un petit peu au nord du pays. Donc l'entrée de cette manifestation, ce sera 10 euros, avec un tarif réduit de 6 euros et gratuit pour les moins de 10 ans. Voilà, il y a possibilité de dégustation en plus et d'achat d'artisanat. Donc 22 septembre, à partir de 18h30, au bel espace Georges Brassens de Saint-Gély-du-Fesque. Samedi 22 et dimanche 23, de 9h à 18h, à la salle des fêtes à Agnan, il y a les braderies coutumières d'Espoir pour un enfant. Dimanche 23, il y a la journée Chapeau les bénévoles qui est organisée par la MTMSI à la Maison pour tous Léo Lagrange, donc au quartier de la Paillade. Le tram 1 au hall de la Paillade n'est pas loin du tout de ce lieu-là. Et c'est ça se passe donc au parc, je pense que ça s'appelle Sophie Desmarais. À 10h, pour les amateurs de balade, il y aura un départ pour une balade autour du lac des Garrigues, qui est un très beau lac. À 11h30, pour les amateurs de grasse matinée, ils pourront arriver à ce moment-là pour avoir un apéro en musique à la Maison pour tous, de la Paillade également, et au programme des activités tout public, mais aussi pour les enfants, de la musique, du théâtre, des forums et surtout de la fraternité, de la bonne humeur. Chacun amène son pique-nique, sans oublier la part destinée aux musiciens et aux réfugiés invités ce jour-là, et à la garniture de la table des desserts. Voilà, donc une belle journée en perspective également. Le mardi 25 septembre, donc, Café Actualité au CDTM, de Narbonne à Bure, pour un projet d'avenir collectif et sans nucléaire, avec Didier Lator, qui fait partie de l'arrêt du nucléaire 34, un grand programme, et qui est membre du LICAN. Lundi 24, à la Cosmopolitech à Béziers. Ah non, ça c'est pas la peine. Excusez-moi. Le mardi 25, à l'espace Martin Luther King, à Montpellier également, une conférence débat. Réfugiés dans leur propre pays, l'intolérable situation des Palestiniens en Cisjordanie occupée. Avec Mohamed Aboussour, réfugié du camp de Haïda et avocat et chercheur pour l'ONG palestinienne Badil. Et Hamze Adrabou, réfugié du camp de Jaysed, qui est travailleur social à la Bethlehem Arab Society for Rehabilitation. Samedi 29, de 11h30 à 16h30, à l'espace Martin Luther King, mon coup de soleil encore, en ce moment, ils ont le vent en poupe également, ils fêtent les 20 ans. Voilà, avec une conférence sur la littérature maghrébine de Najed Kada et un concert d'Emmanuel Budin et les Vincent Crépin. Il y aura un film sur l'origine de la création de Coupe de Soleil au Languedoc-Roussillon qui est réalisé par l'association Baraka avec diaporama, exposition. Et un certain nombre d'auteurs des deux rives de la Méditerranée sont attendus. Et puis, alors, très important là, à l'invitation de notre partenaire, mercredi 19 à samedi 22 septembre, il y a le Festival des Alternatives, organisé par Alternatiba, ce grand collectif qui est un mouvement citoyen de mobilisation pour le dérèglement climatique. Je pense que vous le connaissez, vous en avez entendu parler. Il promeut des initiatives concrètes qui visent à construire une société durable tout en s'opposant aux projets qui entravent le développement de cette cité. Donc mercredi, très symboliquement, il y aura l'accueil du Tour Alternatiba, je vous rappelle c'est à vélo, hein, à 12h à Saint-Clément-de-Rivière, au campus de Bissy, et il y a un accueil par le collectif Oxygène que nous avons reçu régulièrement sur nos radios. Il est situé donc, ce collectif Oxygène est l'objet est en lutte contre un projet faramineux qui s'appelle Oxylan et dont un des promoteurs est la société Decathlon. Donc ce collectif est très actif et pour l'instant, il a réussi à bloquer le début de cette construction qui va détruire toute une vaste zone verte. Voilà. Donc, il y aura ensuite à 15h après le pique-nique, il y aura un départ vélocution vers la place de la Comédie. Et à partir de 17h, il y a l'espace Oxford de la Paillade, il y aura l'arrivée des cyclistes avec une conférence climat, une buvette, des snacks et autres musiques. Jeudi, rencontre, atelier, conférence sur les petits bars. Alors, je ne vais pas tout vous dire, je n'ai plus le temps, mais vous pourrez aller voir sur le site, sur les deux sites, donc le collectif Oxygène, collectif-oxygène.fr ou le site tour.alternativa.eu. Voilà, vous aurez le détail de tout ça. Et en sachant quand même, je préfère vous le dire tout de suite, la manifestation du samedi 22, qui s'appelle Faisons-le nous-mêmes ensemble, a été déportée du parc Sophie Desmarais, où elle était prévue, au château de Grabel. Voilà, et de 12h à 16h, il y aura un banquet solitaire, 2000, et à 19h, une soirée de clôture avec festival, animation musicale, buvette et snack, etc. Voilà, je vous souhaite une belle semaine, en attendant de retrouver la douce voix de Marlène, de Madeleine, pardon, et belle semaine à tous. Et notre Madeleine sera de retour bientôt.